Histoire vivante. Anaïs Kien.
Épisode 3. Le nazisme au pouvoir.
Ein Parteistaat ist gefallen. Ein Volksstaat ist erstanden. Vielleicht.
En 1933, le gouvernement allemand, dirigé par Hitler, solde la démocratie en Allemagne. En quelques mois, les libertés politiques sont restreintes et le communisme devient l'ennemi à abattre. Le nazisme est au pouvoir, mais ses dirigeants étaient-ils prêts à l'exercer, ce pouvoir ? Réponse avec Nicolas Patin, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne.
En réalité, même après presque 100 ans de recherche, on est toujours un peu ébahi et un peu interdit, les bras ballants, face à la réalité du monstre qui émerge à cette époque-là. Je pense qu'il n'était pas prêt à exercer le pouvoir. Je pense qu'il fantasmait la réalité du pouvoir, il le voulait, ce pouvoir, absolument. Mais une fois qu'ils y arrivent, il n'était pas tout à fait prêt à la réalité de ce qu'est un État complexe de 67 millions d'habitants, à l'exception d'une chose, c'est qu'ils avaient déjà commencé à gouverner dans les régions, dans les Länder, dans ces États quasi indépendants de l'Allemagne fédérale, notamment en Thuringe. Et ils avaient compris au moins une chose, c'est qu'il fallait évidemment contrôler la police et l'armée. On voit cette stratégie-là se mettre en place avant 1933. Donc les nazis, en soi, ont déjà un peu pris le pouvoir à l'échelle régionale. Mais quand ils prennent le pouvoir de la fédération allemande, ils prennent tout de suite quel ministère, quelles attributions. La police en Prusse, Göring, Wilhelm Frick à la tête du ministère de la Justice et la tentative de phagocyter l'autorité du bras droit de l'État répressif. Et j'avoue que quand on nous demande à Christian Ingrao, Yohann Chepoutou et à moi de dire... Quelle leçon on pourrait tirer de tout ça ? Quelle menace représente un mouvement comme ça pour un État contemporain ? La réponse est très simple. Quand vous donnez le pouvoir d'un État à un mouvement comme ça, il s'en sert. Et il s'en sert pas d'abord pour utiliser la main gauche d'un État moderne, c'est-à-dire son versant des accompagnements sociaux, de l'assurance chômage. Non, 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 il s'en sert du point de vue le plus violent et le plus direct du monopole de la violence légitime d'État, la police, l'armée, la répression. Et ça, les nazis l'ont compris. Et là, ils savent quoi faire. C'est-à-dire que bien avant l'incendie du Reichstag, qui est le moment de tournant de la fin février 33, un mois après que Hindenburg ait donné le pouvoir à Hitler, dès les premiers jours, il y a une répression des opposants politiques qui est massive. On estime en moins de 6 mois, début juillet 1933, il y a 27 000 opposants politiques qui sont déjà en camp de concentration. Donc la répression, la manière de gouverner nazi, c'est d'abord le ciblage des opposants politiques, des juifs aussi, hein, par d'autres types de politiques de persécution, notamment les boycotts, mais c'est d'abord détruire l'ennemi marxiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend des âneries à longueur de temps sur le fait que les nazis sont soi-disant de gauche parce qu'ils s'appellent socialistes, etc., on marche vraiment sur la tête quand on regarde le fait que les premières décisions des nazis, à la tête de l'État qui vont modeler par la suite, c'est la répression des syndicats, la répression des communistes, la répression des socialistes. Donc voilà comment l'État national-socialiste prend son envol.
À partir du 14 juillet 1933, le NSDAP, le parti nazi, devient le seul parti légal.
Il y a de l'adhésion, mais il y a aussi des résistants. Et c'est vrai que quand on parle de résistance allemande, on a peu d'images qui nous viennent. On a la Rose Blanche, ce groupe de résistants catholiques bavarois autour de Hans et Sophie Scholl. On pense peut-être aussi à Stauffenberg, l'attentat de juillet 1944. On pense plus récemment à Georg Elser, ce loup solitaire qui a essayé de faire exploser une bombe dans un discours d'Hitler en 1939. Et malheureusement, ça n'a pas marché à 13 minutes près à cause de la météo. Mais de fait, on ne peut pas ne pas voir que cette résistance-là, elle est très faible du point de vue numérique. Les deux groupes qui vont résister collectivement à l'échelle générale, c'est les ouvriers et les catholiques, parce qu'ils ont un parti qui s'appelle le Zentrum, et ils sont traditionnellement... Depuis des dizaines d'années, depuis les lois de persécution de Bismarck, qu'on appelle le Kulturkampf dans les années 1870-80, ce groupe catholique-là, il est un peu imperméable au nazisme. Alors pas parce qu'il n'en partage pas une partie des idées, malheureusement, mais parce que, voilà, en Bavière, dans le Bade-Württemberg et dans l'ouest de l'Allemagne, le catholicisme, c'est l'alpha et l'oméga des relations sociales. Et donc, quand les nazis font mine de, par exemple, supprimer les crucifix dans les écoles, alors là, on a des vraies révoltes collectives de masse. Et le régime recule. Du point de vue des ouvriers, c'est un peu différent. Pour le Parti communiste et socialiste, on l'a dit, ils sont rétamés, ils sont détruits. Donc la résistance des ouvriers n'a plus de corps intermédiaire. Il n'y a plus de syndicats, ils sont supprimés dès 1933, il n'y a plus de partis, il n'y a plus de manière de s'organiser sans tomber directement sous les coups de la répression la plus nue. Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, avec la guerre, va naître de nouveaux milieux qui, en fait, pour certains, sont des fervents adulateurs d'Hitler en 1939, mais à mesure que se collectionnent les défaites, et avec le tournant de Stalingrad en janvier 1943, ben un certain nombre d'acteurs vont se rendre compte, plus ou moins rapidement, que Hitler conduit l'Allemagne à sa perte et vont commencer à s'organiser. Et d'une certaine manière, quand on regarde les deux exemples que j'ai cités les plus connus de résistance, la Rose Blanche et surtout Stauffenberg et tout le réseau qu'il y a derrière, l'opération Valkyrie, ce sont des gens qui ne sont pas des anti-nazis convaincus au départ. Hein. C'est des gens conservateurs, pour certains antisémites, donc on en a fait des héros, mais sans trop regarder quelles étaient leurs motivations profondes. Ces gens-là, à mesure qu'Hitler est en train de détruire ce que eux considèrent comme le bien le plus important, l'Allemagne, au-dessus de tout, Deutschland über alles, ils vont commencer à résister. Là où je le pinaillerais un petit peu, c'est parler d'une nouvelle génération. En fait, il n'y a pas assez de résistants pour parler d'une génération. Il y a des mouvements épars, à l'extrême gauche, à gauche et dans certains milieux conservateurs. Il y a un rejeu, il y a une prise de conscience vers 43-44 qu'il faut s'élever. Mais attention, ce rejeu-là ne vaut pas pour blanc-seing idéologique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de ces gens-là tout d'un coup des gens qui ont résisté dès le premier jour au nazisme. Hein. C'est une prise de conscience qui a duré extrêmement longtemps et qui ne s'est pas émue de l'extermination des soi-disant handicapés, l'action T4, et assez peu émue des déportations des Juifs qui avaient commencé bien avant.
Dans cette série, vous entendrez souvent le terme « darwinisme » ou encore « darwinisme social ». Exercice de définition avant de reprendre le fil de l'histoire. Nicolas Patin.
Le darwinisme social, c'est une doctrine fausse qui, à partir des travaux de Charles Darwin, qui a publié « De l'origine des espèces » en 1859, va appliquer les théories de la lutte des espèces, de la survie du meilleur et de la rareté des ressources à l'espèce humaine. Dans Darwin, il n'y a pas une ligne de ça, mais chez des gens comme par exemple Herbert Spencer, grand fondateur du darwinisme social, à une époque aussi où la France, l'Angleterre surtout et un peu l'Allemagne sont en train de coloniser l'ensemble de l'Afrique, va expliquer qu'il y a une lutte des espèces humaines et des races humaines les unes contre les autres. À l'époque, c'est considéré comme totalement légitime. Et donc vous avez partout en Europe, et plus spécifiquement après les années 20 en Allemagne, une vision de division de l'espèce humaine en races et de hiérarchie de ces races-là, qui au départ n'est pas spécifiquement allemande, mais ensuite sédimente dans l'Allemagne des années 20. Et donc ce darwinisme social, c'est vraiment cette idée que le meilleur va survivre, que le moins bon, le pauvre, le handicapé ne va pas survivre dans cette lutte des races, voire que dans la compétition entre race aryenne et race juive, évidemment la race aryenne doit gagner. Et les nazis ne parlent systématiquement que de lutte pour l'existence, vraiment de sein oder nicht sein, être ou disparaître, dans cette espèce de lutte permanente entre la destruction de soi ou la destruction de l'autre. Et cette pensée radicale, elle va irriguer les pratiques de violence. On voit qu'aujourd'hui, cette pensée-là, elle s'exprime plus du tout dans les contextes, dans la manière dont elle s'exprimait à l'époque, heureusement, mais qu'elle n'a pas disparu non plus dans cette idée de la survie des plus aptes qui s'appliquerait aux humains, alors qu'elle ne s'applique pas du tout. Nous ne sommes pas des êtres naturels, nous sommes des êtres de culture, des êtres qui font société à travers un certain nombre de choix, et ça, évidemment, il faut le rappeler en permanence, malheureusement.
Le nazisme est au pouvoir, les opposants sont réduits au silence, mais comment convaincre la population ? La terreur ne suffit pas.
La manière de faire, la manière de gouverner nazi est totalement spécifique. C'est une manière de gouverner l'État vers la destruction de l'État. Pourquoi ? Les nazis, encore une fois, fondent leur vision du monde sur un darwinisme absolu. Et dans Mein Kampf, qui n'est pas la source de toute l'idéologie nazie, mais où il y a quand même quelques éléments importants, Hitler dit bien que l'État ne l'intéresse pas. L'État, dit-il, n'est qu'un moyen au service de la race. Un outil, mais un outil comme un autre. Et donc pour Hitler, l'État bureaucratique allemand de l'époque, qui est quand même, du point de vue de la gestion pure et simple, bureaucratique, plutôt un État très très fonctionnel et très très en avance, cet État-là n'a pas pour but de survivre. Il doit servir la race aryenne. Et Hitler va appliquer un darwinisme gouvernemental en détruisant l'État de l'intérieur, en mettant en place des agences. Alors vraiment, le nazisme, et c'est pour ça que c'est dur d'en faire l'histoire de l'État national-socialiste, c'est qu'il y a un pullulement d'agences. À chaque fois qu'il y a un ministère très solide qui date de 100 ans en arrière, Hitler nomme un nazi fanatique à sa tête, mais à côté, il nomme un autre pour créer une agence qui ressemble, qui porte le même nom, avec les mêmes attributions. Et tout ça dégénère en une concurrence de tous contre tous pour aller vers la solution la plus radicale. Et la parole de Hitler ayant force de loi, les différents hiérarques nazis, c'est un peu, alors on a pu parler à une époque de néo-féodalité, comme des baronnies qui se luttent les unes contre les autres pour trouver des solutions. Alors, des exemples, on en a plein. Dans la propagande, Joseph Goebbels n'est pas du tout omnipotent à la tête de son ministère de la propagande et de l'éducation du peuple. Il est en concurrence avec le ministre de l'Éducation nationale, Bernard Roust. Il est en concurrence avec Otto Dietrich, qui gère la presse au ministère des Affaires étrangères. Et il est en concurrence avec le ministre des Affaires étrangères. Tout ça fonctionne comme une concurrence de tous contre tous. Et dont on se dit, mais pourquoi et comment ça a pu tenir ? Ben, ça n'a pu tenir que parce que c'était une gigantesque fuite en avant vers la mort, en fait, vers la guerre de prédation et de conquête qui est sue et préparée dès le début du régime, et puis parce que le Troisième Reich s'est arrêté en 1945 dans un écroulement. Sinon, je ne sais pas du tout ce que serait devenu l'État du Troisième Reich. Il n'y avait pas de réunion de gouvernement et l'accès à Hitler qui conditionnait l'action politique devient de plus en plus difficile à mesure qu'on avance dans la chronologie. Donc voilà l'émergence de ce monstre qui ne rentre quasiment dans aucune typologie actuelle de ce que peut être un gouvernement et un État moderne.
Ça, c'est pour l'appareil d'État. Mais du côté de la société, le nazisme s'insinue aussi dans la plupart des dimensions de la vie. Dans les relations au travail, dans les familles et dans l'espace public. Johan Chapoutot, historien et professeur à Sorbonne Université.
C'est une grande force aussi de l'extrême droite que de dire au fond, et ça les nazis ne s'en cachent pas en réalité dès le départ, rien ne va changer dans la structuration sociale de l'Allemagne. C'est-à-dire que les élites traditionnelles vont rester en place, les élites patrimoniales, on ne va pas y toucher. Mais par contre, ce qui est proposé au peuple allemand, et ce qui est considéré biologiquement de bonne race, c'est que ils resteront dominés, évidemment, par le capital et par les élites traditionnelles, mais ils auront toujours la satisfaction, mais immense, d'avoir plus dominé qu'eux en dessous. Mutatis mutandis, ce sont toujours les problèmes de l'extrême droite, du RN français à Trump, en passant par Orban, etc. Il n'est pas question de toucher aux structures de domination sociale établies, puisque de fait, les partis d'extrême droite ont besoin de ces élites-là pour être financé et puis pour être poussé au pouvoir et maintenu au pouvoir. On sait très bien que Mussolini n'a rien touché à la société italienne. Le roi reste en place, il a pactisé avec l'Église, enfin voilà, et l'aristocratie. Idem en Allemagne, on voit d'ailleurs deux des fils de Guillaume II se rallier au parti nazi avec enthousiasme et parader en uniforme de général de la SA dans les années 20. Parce qu'ils ont bien compris, et le patronat aussi, que rien n'allait bouger. Par contre, pour la grande masse de ceux qui se considèrent à juste titre comme dominés socialement, on leur offre quelque chose qui serait de l'ordre d'une utopie ségrégationniste en interne. Il y aura des citoyens de seconde zone, les allogènes, les juifs, et ceux qui ne se conforment pas à l'idéal politique nazi. Et en externe, Mais très rapidement, l'externe va devenir interne dans le cadre d'un gigantesque programme de conquête et de colonisation de l'Europe de l'Est. Ils seront les seigneurs et maîtres, hein, Herrenmenschen en allemand, ils seront les seigneurs et maîtres de races inférieures, en l'occurrence les Slaves, qu'ils domineront à titre de seigneurs et maîtres coloniaux. Donc c'est cette utopie coloniale et cette eschatologie de la domination coloniale qui est promise au peuple allemand en compensation du fait que, en réalité, rien ne va changer et qu'il faudra toujours fléchir le genou devant les fils de Guillaume II ou devant le patron de Krupp.
Pour écrire l'histoire, il faut des archives. Il faut les trouver et les croiser, mais l'opinion publique en Allemagne, celle qui apparaît peu parce qu'elle n'est pas engagée ni du côté du nazisme, ni du côté des sociodémocrates, ni dans les rangs communistes, elle en a laissé très peu de ses traces. Alors comment comprendre l'image du pouvoir nazi parmi ces invisibles ?
Bah, on se rend compte que les nazis, au moment où ils arrivent au pouvoir en 1933, ont globalement conquis l'adhésion de 30-40% du cœur des Allemands, mais que il reste 60 à 70% des gens qui soit sont relativement indifférents, soit sont des opposants farouches, la gauche allemande. À partir de l'arrivée au pouvoir, va se jouer la conquête par la contrainte et par l'adhésion de ces Allemands. C'est ce que l'historien Peter Fritzsche a appelé la transformation des Allemands en nazis, parce qu'il en reste encore beaucoup à transformer en nazis en 1933. Et ça va être quelque chose de progressif qui va se jouer, alors, de plusieurs manières, évidemment par la terreur, par l'enfermement politique, par la contrainte, par l'obligation. On pense à une chose toute bête, mais on n'y pense pas suffisamment, le salut nazi. C'est-à-dire arriver dans la rue, encore une fois dans l'espace public, et faire le salut nazi, c'est une des premières décisions de Hitler, c'est de remplacer le bonjour traditionnel dans l'espace public par Heil Hitler et le salut nazi. Si vous ne le faites pas, vous êtes suspect. Vous êtes suspect et la Gestapo laissera passer une, deux, trois fois, mais peut-être pas quatre. Donc vous voyez, il y a déjà cette prise de pouvoir par la contrainte. Mais c'est pas suffisant. Parce que les simples Allemands, ceux qui ne font pas partie des opposants politiques, alors j'ai pas envie de parler en tiers, mais bon, un tiers de nazis convaincus, un tiers d'opposants politiques, le tiers du milieu. Qu'est-ce qu'ils pensent ce tiers du milieu ? On a des enquêtes pour connaître un peu cette opinion-là. Ce tiers-là, et il faut le dire, il faut affronter cette question-là, il va être conquis, pour certains, par les victoires économiques de Hitler, et notamment la principale qui est la bataille contre le chômage. Quand Hitler arrive au pouvoir, il y a 6 millions de chômeurs inscrit officiel en Allemagne, c'est une catastrophe. Dans certains endroits, alors à l'échelle générale, on a presque 40% de la population active qui est au chômage, et dans certains endroits, 70-80, donc on est dans une crise énorme, et en l'espace de 2 ans, le chômage est éradiqué. Alors c'est pas la politique d'Hitler, c'est une partie des politiques économiques qui ont été mises en place avant lui, et puis surtout, le réarmement, l'infusion, la mise en place énorme d'une partie du PIB dans le réarmement, et donc de la guerre à venir. Cette victoire-là, on ne peut pas ne pas voir qu'elle va être considérée par certains Allemands comme un miracle, mais mise au crédit de Hitler et des nazis. Pour la suite, ces Allemands-là, ils vont voir la rythmique, on peut dire, des cérémonies nazies toute l'année, l'anniversaire, les commémorations de la prise du pouvoir, puis l'anniversaire d'Hitler le 20 avril, puis fin août le congrès du parti, et une partie de cette, on va dire, petite bourgeoisie allemande, protestante, va adhérer au nazisme et adhérer à ce projet-là. Et quand on pose la question de savoir de quoi est-elle au courant, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, le simple Allemand connaît la politique criminelle du régime ? Mais la réponse est bien évidemment oui, tout comme la réponse sera oui pour est-ce que les Allemands étaient au courant de la Shoah ? Ces choses-là se font au vu et au su de tout le monde. Je donne un exemple. En 1935, a lieu un congrès à Nuremberg qui va mettre en place des lois d'apartheid racial, qui sont les lois de Nuremberg. Les personnes considérées comme juives par les nazis n'ont plus le droit de se marier ou d'avoir des relations sexuelles avec des personnes considérées comme ariennes. Et ça va même jusqu'au point de légiférer sur le fait que les bons Allemands n'ont pas le droit d'employer des juifs comme hommes ou femmes de maison. Cet apartheid sexuel, de tri entre les juifs et les Allemands, c'est pas juste une loi. Vous avez dans les rues allemandes, dans les petites villes, dans les grandes villes, Alors c'est souvent des femmes, encore une fois on retrouve cet ordre patriarcal hein, qui préfère taper sur les femmes que sur les hommes en général. Quand une femme a eu le malheur de coucher ou de sortir, d'être en couple avec un homme juif, ils sont tous les deux amenés dans la rue, tondus parfois, où on leur met des panneaux avec marqué « J'ai déshonoré ma race, j'ai commis le crime de Rassenschande, de honte raciale ». Et là, encore une fois, on est face à un dispositif politique qui montre aux Allemands qu'ils ont le choix. C'est-à-dire, soit ils sont... Alors, ils ont un choix qu'on peut appeler un choix sous contrainte. Soit ils sont du côté de ceux qui ont péché, qui ont commis ce péché de honte raciale, soit ils sont avec les bons Allemands. Et toutes ces pratiques de violence-là, elles vont créer un groupe cible, ceux sur qui on exerce la violence, mais elles créent aussi en retour le groupe dominant, la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, le groupe d'appartenance arien et allemand. Et donc, en fait, tout ça, c'est pas de la théorie, c'est des pratiques au quotidien qui montrent que toutes ces années-là, 33-39, ensuite, avec l'émergence de la Seconde Guerre mondiale, les choses vont encore se radicaliser. Mais les années de 33-39, toutes ces cérémonies d'un côté, ces grands messes nazies, la manière dont Leni Riefenstahl met tout ça en film avec le triomphe de la volonté, et de l'autre côté, les politiques de répression, vont construire un groupe majoritaire qui est celui des Allemands, la communauté du peuple, et puis les groupes minoritaires qui sont attaqués. Et c'est cette dynamique-là qui produit en fait l'adhésion au national-socialisme.
Christian Ingrao, historien, directeur de recherche au CNRS.
Les politiques qui sont mises en place ici, il faut bien voir qu'il y a un volet économique et un volet social. Quand on regarde d'abord le volet économique, il faut faire attention à une chose, c'est les apparences sont pour les nazis. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du redressement extrêmement rapide hein, de la courbe du chômage. Mais il faut aussi bien regarder les éléments du contexte. Hein. La crise économique qui se met en place en 1929 est une crise de déflation qui démarre sur un krach boursier aux États-Unis et qui va aboutir à une sorte d'effondrement des systèmes internationaux d'échange qui amène un chômage extrêmement important et intense dans les économies les plus tournées vers l'extérieur, notamment l'Allemagne. Les gouvernements qui se succèdent entre, on va dire, novembre 1929 et janvier 1933 mettent en place un certain nombre de plans qui, à la fois, rajoutent de la crise à la crise, des politiques déflationnistes, hein, d'essayer de maintien de la valeur de la monnaie, de mise en place de taux d'intérêt extrêmement forts, qui sont censés essayer de mettre en place une politique d'austérité. Et cette politique a pour effet, en fait, d'aggraver la crise. À ceci près que, en 1932, ont lieu les premiers plans de relance avec des plans de construction, des plans d'emploi que les nazis vont trouver sur l'étagère en arrivant au pouvoir. Et donc, ces premiers plans qui ont été mis en place et cet argent qui a été mobilisé par les gouvernements précédents, qui sont des gouvernements nationaux conservateurs, vont être utilisés par les nazis pour mettre en place des plans de relance extrêmement importants. Ces plans de relance importants, ils sont combinés à des politiques de commandes massives d'armement qui vont se mettre en place par un tour de passe-passe, un système de traite qu'on appelle les méfauts, et qui permettent de passer des commandes sans que ces commandes apparaissent au bilan comptable de la nation. Ce système, qui est novateur pour l'époque, hein, permet au gouvernement de tirer de la monnaie sans que l'inflation soit véritablement inscrite dans les comptes de la nation et met en place une sorte de système caché qui fait que les commandes d'armement cache aussi un système de prêts à l'État, prêts qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Alors évidemment, si, bien sûr, un certain nombre d'opposants émigrés trouvent la supercherie à partir de 1935, il n'en reste pas moins que, à ce moment-là, le pseudo-miracle économique est déjà en place et que, petit à petit, l'Allemagne passe d'une période de chômage importante, extrêmement douloureuse, à une période qui est presque une période de plein emploi. Ça, c'est le premier volet, c'est un volet économique. Le deuxième volet est un volet social. C'est un volet qui est contraint aux yeux des national-socialistes parce que, comme leur volet économique est déjà un volet qui a pour conséquence des tensions inflationnistes, ils essayent de mettre en place un certain nombre de mesures d'amélioration des niveaux de vie des populations allemandes, mais en les sous-monétarisant. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de distribuer des primes, des subventions, de mettre en place du don d'argent ou enfin des subventions d'argent à la population, ils vont essayer de mettre en place des mesures qui ont pour effet que le niveau de vie s'accélère, mais sans que ces mesures soient monétarisées. Par exemple, en accordant des bons d'achat à réaliser dans des chaînes de, on va pas appeler ça supermarché, mais dans des chaînes de distribution moyenne et de grande distribution, qui permet aux Allemands d'acheter des biens de consommation courante supérieure, des radios, etc., etc. Et donc, on a ici tout un ensemble de politiques qui essayent de donner au moins l'apparence de la prospérité et donc qui, de facto, donnent l'impression aux populations allemandes de satisfaire à deux promesses, le retour du travail et le retour d'une certaine prospérité.
Le nazisme limite les libertés individuelles dès 1933 et rétablit une société de consommation en souffrance. La République de Weimar, remplacée par le Troisième Reich, est ridiculisée et baptisée la République des vieux. Le nazisme, c'est aussi une conception du travail au service de son projet et un statut tout particulier dévolu à la performance. Christian Ingrao, co-auteur du livre « Le monde nazi », paru aux éditions Talendier.
La question du travail est une question qui est centrale et fondamentale à la fois dans le nazisme et dans le Troisième Reich. Si quand vous réfléchissez un petit peu, vous apercevez que c'est le travail qui est le principal critère de discrimination sociale et raciale. C'est-à-dire que le monde est divisé en deux pour les nazis, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a les gens qui travaillent en étant rémunérés et puis les autres. Ceux dont le travail est arraché, fait l'objet de prédation et n'est pas rémunéré. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est le fait que ce travail, il est à la fois glorifié et célébré en ce qui concerne cette partie de la société qui travaille de façon rémunérée, hein, qui est la Volksgemeinschaft, et dans le même temps que les nazis mettent en place tout un ensemble de politiques symboliques rendant hommage aux travailleurs, ils mettent aussi en place des politiques que on pourrait quand même qualifier de mesquine, hein, qui consiste à mettre en place des organisations, des appareils qu'on pourrait appeler idéologiques d'État, qui mettent en place une approche scientifique du travail et sont censés être ici pour optimiser les performances et le faire de la façon la plus complète possible. Et c'est cette optimisation des performances qui va, pendant la guerre, culminer jusqu'à mettre en place des conditions de travail articulées à des types de rationnement alimentaire pour faire du travail un outil d'épuisement qui permet de soutirer l'énergie des individus jusqu'à leur mort.
Merci à Christian Ingrao et Nicolas Patin. Dans le prochain épisode, le nazisme soigne son image à l'international. Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Samuel Morier-Genoux à la réalisation.